Radio Starbell.
Morning edition from
NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Voici l'espace des femmes. Ici, elles font de la gym et du yoga. On va arranger l'espace d'à côté pour les hommes afin qu'ils puissent eux aussi se dépenser.
Si on vous avait emmené visiter ce camp il y a encore quelques mois, on vous aurait décrit les odeurs de poubelle, les gens entassés, les pleurs des enfants, les infrastructures zéro. Là, au contraire, c'est un peu l'appartement témoin d'un camp de réfugiés syriens dans le nord de la Grèce qui fonctionne bien. Et Angélique Couronis nous expliquera pourquoi, sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Algérie, en Arabie Saoudite, en Belgique et en Iran aussi ce soir. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, une élection au résultat repoussé en RDC, un coup d'État manqué au Gabon. Et pourtant, Jean-Marc Four, dans son Monde à l'envers, nous expliquera que peut-être cette semaine est celle de la démocratie en Afrique. On verra ça dans un instant. Pas de monde selon Trump, alors qu'on est lundi et pour cause, on lui consacre le premier quart d'heure à ce président américain. Le bras de fer avec les démocrates fait entrer le shutdown dans sa troisième semaine. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le
monde. Et le 3, donc, ou presque, un shutdown aux États-Unis. Ça a commencé le 22 décembre dernier. Les concessions dans un camp comme dans l'autre ce week-end ont peut-être un peu commencé. On parle vaguement de la matière de ce mur. Est-ce qu'on est passé du béton à l'acier? Ça n'est pas forcément anecdotique. On le verra dans un instant. En tout cas, ça ne vous a pas échappé non plus. Les démocrates commencent à entrer en ordre de bataille pour 2020. Bref, Trump, saison 3, s'annonce-t-elle compliquée? Pas si vite. On voit ça dans un instant. Bonsoir, Corentin Célin.
Bonsoir.
Agrégé d'histoire, prof. En classe prépa, spécialiste des États-Unis. Corentin, c'est là un bras de fer, c'est le principe d'un shutdown, on n'est jamais d'accord sur un sujet lié au budget. On a l'impression que c'est aussi un jeu finalement auquel il joue quasiment à chaque fois. Est-ce que celui-là est différent des autres ou pas?
Alors, il est différent des autres parce que pour l'instant, on ne voit pas d'incitation pour un des deux camps à céder. Alors que, par exemple, en 2013, à peu près au même moment, là, au bout de 17-18 jours, on avait dit, bon, les Républicains avaient fini par plier les Gaules, comme on dit. Là, aucun des deux camps n'a intérêt à céder. Mmh. Donald Trump, pour rassurer sa base, la plus étroite, celle qui veut absolument un mur contre l'immigration à la frontière mexicaine. Et d'autre côté, les démocrates qui arrivent majoritaires à la Chambre depuis le 3 janvier, qui sont forts de la légitimité populaire des élections de novembre 2018 et qui, eux, disent « Bah non, nous sommes les nouveaux représentants du peuple, pourquoi nous céderions devant les oukases de ce président ?» Donc personne n'est... prompt à céder pour l'instant, et c'est ça la grande nouveauté, et on voit mal le chemin du compromis, même si effectivement il y a quelques petites pistes qui commencent à se dessiner.
Et puis alors, parce qu'on est, alors on va venir à ces pistes-là, mais c'est vrai qu'on est aussi sur quelque chose de fondamental, on est dans de la philosophie politique, beaucoup plus que dans une histoire de budget. Là, on est en train de parler du grand thème de l'immigration, céder, ça veut dire aussi céder sur le thème, au fond.
Oui, absolument. Il ne faut pas oublier l'origine de ce shutdown qui n'aurait pas dû avoir lieu puisque Donald Trump avait accepté une proposition de compromis budgétaire pour proposer à la fois par les démocrates et les républicains. Et c'est parce que il a été vilipendé, il a été très critiqué pour la première fois.
Ann Coulter.
Par Ann Coulter en particulier, la fameuse polémiste états-unienne, nationaliste, identitaire, qui lui a dit « Vous trahissez vos promesses ». Mais pas que elle. Hein. Sur Twitter, pour la première fois, on a vu des gens lui dire « N'abandonnez pas vos promesses, America first, rendez l'Amérique forte, vous aviez promis le mur », et en deux jours, il a cédé, il a dit, fini, je ne signerai aucun compromis budgétaire où il n'y aura pas au moins 5 milliards de dollars pour le mur. Et depuis, il se cramponne parce que pour lui, on est déjà en 2020, et pour la future présidentielle, il s'agit de visser, de consolider cette base qu'il a portée au pouvoir et pour laquelle il doit rester le héros, celui qui défend les États-Unis face aux dangers de l'immigration.
Et d'ailleurs, et on y viendra grâce à Grégory Phillips qui va nous expliquer à quoi ça ressemble réellement ce shutdown, mais la base de l'électorat de Trump, Corentin Célin, est-ce que réellement elle est touchée par ce shutdown? Parce qu'après tout, on parle des fonctionnaires fédéraux, on parle donc de tout ce qui touche autour de Washington, mais le vrai électeur de Trump, sincèrement, de vous à moi, il s'en fout, non?
Exactement, et c'est aussi une des nouveautés, c'est la politisation de ce shutdown, et Trump n'arrête pas de faire cette remarque en disant « Bon, les fonctionnaires qui sont victimes de ce shutdown, hein, ce sont des démocrates. » Donc, sous-entendu, c'est pas si grave, ce sont des adversaires politiques. Alors, il n'a pas totalement...
Je vous le demandais, c'est vrai ou pas, d'ailleurs?
Alors, il n'a pas totalement tort pour l'opinion publique, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui habitent essentiellement à Washington, D.C., qui avaient voté presque à 90% pour Hillary Hillary Clinton et dans le Maryland, qui est un État démocrate presque depuis 40 ans. Donc effectivement, on peut supposer, mais en fait, il n'a aucune preuve de cela. On peut le supposer, mais il joue avec une perception de ses partisans. Et cette perception, c'est qu'effectivement, pour l'instant, eux n'ont pas à souffrir de ce shutdown qui fait souffrir des fonctionnaires qui ne sont pas une base électorale traditionnelle des Républicains. Et donc, on peut continuer à jouer, on peut continuer le défi.
Donc chacun fait sa guerre de la com, mais on a l'impression qu'on ne sait pas qui la gagne, cette guerre de la com, pour l'instant. En tout cas, parce que ce que vous dites des Républicains, on peut l'appliquer exactement aux démocrates, en effet, parce que là, pour le coup, on est pile dans leur électorat, et aussi, on est dans la posture de principe, on vient de regagner la Chambre des représentants, donc il faut bien qu'on porte sur quelque chose.
Oui, absolument. Et les démocrates, et Nancy Pelosi, est aussi entêtée que Donald Trump. Pour elle, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'elle vient juste d'être réélue speaker de la Chambre, et elle doit fédérer une majorité démocrate où il y a à la fois des anciens comme elle, bon, qui seraient peut-être plus prompts au compromis, plus enclins au compromis, et d'autre côté on a des jeunes élus, évidemment on a beaucoup vu Alexandria Ocasio-Cortez ces derniers jours, qui sont très à gauche, très radicaux, et Pelosi doit s'imposer. Donc elle ne peut rien céder face à Trump, parce que si elle cède face à Trump, elle a sa base de gauche, de députés de gauche, de représentants de gauche, qui viendra la chercher. Donc elle non plus, elle ne peut pas bouger.
Et alors avant qu'on rejoigne Grégory dans un instant, la plus grande durée, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 22 jours sous Clinton, ou une vingtaine de jours sous Clinton.
C'est ça.
Il y a un seuil psychologique quand même, j'imagine, à un moment qu'on ne peut dépasser, ni côté républicain, ni côté démocrate. On a une idée de ce que c'est le seuil psychologique ou pas ?
Alors, on a une date qui d'abord celle du 11 janvier, dans quelques jours, parce que c'est ce moment-là où les fonctionnaires fédéraux qui ont été mis en congé forcé vont recevoir leur feuille de paye amputée. Donc c'est là où vraiment ça va commencer à devenir difficile pour les 800 000 et quelques travailleurs fédéraux, fonctionnaires fédéraux qui ont été mis en congé forcé. Donc ça, c'est une première date. Ensuite, même si Trump, attention, hein, Trump a encore redit, ça peut durer des mois, ça peut durer des années, parce que, rappelons-le, ça ne touche qu'un quart de l'État fédéral, l'autre a été budgété par des votes qui ont été faits en septembre, même si ce n'est qu'un quart de l'État fédéral, comme les gens ne sont plus payés, ils commencent aussi à se mettre en congé maladie. On l'a vu par exemple dans la sécurité aéroportuaire, ça pourrait commencer à mettre en danger la sécurité des vols, le fonctionnement des aéroports et des vols commerciaux. Donc disons que d'ici la mi-janvier, on commence quand même à entrer dans le dur et avoir des effets concrets qui toucheront cette fois tout le monde.
Alors on va voir pour l'instant qui ça touche. Exemple, cette femme, elle s'appelle Renée, elle a 25 ans, elle travaille dans les parcs nationaux américains. C'est Grégory Phillips qui l'a rencontrée. On écoute Renée d'abord.
En gros, on vous dit que vous n'avez pas le droit d'aller travailler. Et donc, vous ne savez pas quand vous serez payé, ni comment. Bien sûr, il y a un effet domino. Vous ne savez pas comment payer votre loyer, ou le crédit de la voiture, ou la facture de gaz, les courses, tout ça. Donc cette attente est vraiment angoissante. Tout ce qui doit fonctionner dans votre vie quotidienne, eh bien, vous ne le contrôlez plus. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ni quand ça va redémarrer. Quelles conséquences ça va avoir sur ma carrière et à quoi ressemblera le parc dont je m'occupe quand je vais rentrer.
Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne.
Grégory, racontez-nous, est-ce qu'on sait globalement combien il y en a des Renées en fait, et comment on commence à changer doucement l'humeur des gens comme Renée?
Il y en a environ 800 000, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup ici à Washington et dans la région. Ici, dans le district de Columbia, on est en plein dans le shutdown. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'employés fédéraux qui travaillent dans les ministères, au service des impôts, aussi dans les parcs nationaux, c'est le cas de René. Et ces gens-là sont directement impactés, ils le seront vendredi, quand normalement il y a le paycheck, le payday, et qui recevront effectivement une feuille de salaire totalement amputée. Donc pour ces gens, c'est quand même pas anodin, ce shutdown. Et René, juste pour l'année, on l'a rencontré il y a quelques jours, parce que les commerçants de Washington sont assez solidaires de ces employés fédéraux qui sont aussi des clients. Et là, on l'a rencontré dans une mercerie qui offrait aux employés fédéraux des cours de tricot gratuits avec des aiguilles à tricoter, histoire de les détendre et de passer le temps, parce que mine de rien, ces fonctionnaires sont quand même assez stressés par la situation.
Voilà, c'est bien connu, parce que tricoter, ça détend, Grégory. Vous nous parlez de ces fonctionnaires, il y a les musées, qu'est-ce qui se passe pour les ordures par exemple, des choses aussi simples que ça? Qu'est-ce qui se passe dans le concret des gens, en tout cas autour de vous?
Alors, les musées sont fermés, les musées fédéraux à Washington, bon, c'est pas dramatique, mais pour les touristes qui sont là, c'est embêtant. Sur le Mall, la grande, vous savez, avenue où il y a tous ces musées et les ministères, les ordures sont pas ramassées, ça commence à devenir embêtant. Dans les aéroports, ça par contre, ça concerne vraiment tous les Américains, c'est-à-dire que les agents du TSA ne sont pas payés, donc certains...
La sécurité
aéroportuaire. Donc ces gens-là ne sont pas payés, commencent à se mettre en arrêt maladie en disant c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc là, il va y avoir sans doute assez rapidement des conséquences pour tous les Américains qui voyagent à l'intérieur du pays. Les mariages, c'est le gouvernement fédéral qui les gère. C'est hyper important. Vous avez prévu un mariage, la salle où ça a lieu, eh bien les fonctionnaires ne travaillent pas, donc ça n'a pas lieu. On a des cas ici à Washington de gens qui sont obligés d'annuler ou de retarder leurs noces. Ça a quand même des conséquences dans la vie pratique et quotidienne de ces Américains-là. Et puis, il y a tout simplement pour ces 800 000 fonctionnaires la question de savoir comment est-ce qu'on va payer. Je sais pas si vous avez un loyer et que vous n'avez pas de salaire, ça devient compliqué vis-à-vis du propriétaire. Les crédits, vous savez qu'on vit beaucoup à crédit ici. À tel point qu'il y a quelques jours j'ai pris un taxi Uber pour me rendre dans le quartier de la Maison Blanche et la jeune femme qui conduisait était une fonctionnaire du ministère de la Sécurité Intérieure qui m'a dit je fais ça parce que je sais pas comment je vais pouvoir payer les factures à la fin du mois, donc pendant quelques jours je fais chauffeur occasionnel pour trimballer des touristes et me faire quelques dollars.
Et Grégory, je veux pas vous piéger, je sais pas s'il y a eu très récemment des sondages, qu'est-ce que disent ces sondages en fait, en gros, aux yeux des Américains aujourd'hui au moment où on se parle, est-ce que c'est à cause de Trump que ce shutdown a lieu? Est-ce que c'est à cause des démocrates? Et surtout, est-ce qu'il faut poursuivre comme Trump le voudrait, ou au contraire, est-ce qu'il faudrait s'arrêter?
En fait, c'est la question la plus importante, c'est sur qui porte la responsabilité de ce shutdown. Est-ce que c'est le shutdown de Trump? Est-ce que c'est celui des démocrates? Dans un premier temps, Trump avait dit « j'assume ce shutdown et je le veux parce que c'est très important, la sécurité du pays, la frontière, le mur, etc. Mmh. » Donc ce sera mon shutdown. Et puis après, il a un peu changé de son fusil d'épaule en disant « mais non, c'est celui de Pelosi et Schumer, c'est celui des démocrates. » Et en fait, à l'issue de cette crise qui est un psychodrame assez habituel de la vie politique américaine, il va y avoir un gagnant et un perdant. Et ça va être très important de dire qui a gagné, qui a perdu et à qui c'était la faute.
Merci Grégory, vous restez avec nous. Évidemment, encore étincelant, il va se rendre sur le mur d'ailleurs, sur la frontière Donald Trump. On se demande ce que ça veut dire d'ailleurs, se rendre sur la frontière, de vous à moi, parce que c'est quand même extrêmement large comme frontière. Mais c'est intéressant ce que dit Grégory sur qui va gagner, qui va perdre. Je disais moitié en plaisantant tout à l'heure que désormais le mur n'est pas forcément en béton, il pourrait être en acier. Mais ça dit des choses aussi, ça permet de trouver une porte de sortie quand on n'est pas exactement dans ce que l'autre avait prévu. C'est aussi à ça que ça sert ce genre de détails, non?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, de ce point de vue, Trump un excellent argument historique, hein, et le passage à l'acier n'est pas innocent, puisqu'il n'a pas cessé de rappeler que les grandes figures démocrates comme Obama et Clinton avaient voté en 2006 la première loi qui avait fait construire le Secure Fence Act, qui avait fait construire une barrière, une première barrière. Alors, c'était une barrière, mais justement, avec le métal, on se rapproche de la notion de barrière. Et donc,
Ce sont des rondins, en fait, les uns après les autres, voilà. Dans certains endroits. On remplacerait ces rondins en bois par des rondins en acier. C'est assez ténu. Hein,
mais... Voilà, mais ça permet à Trump de dire « Voyez, les démocrates l'ont déjà fait, donc si je fais un pas, eux peuvent aussi faire un pas », et donc ça lui permet d'employer cet argument historique. Donc effectivement, ce n'est pas innocent. Par ailleurs, Trump a répété, mais là on a du mal à le croire, qu'il pourrait sortir par le haut si on lui proposait un deal pour la régularisation des enfants de sans-papiers, les fameux Dreamers, qui ont été amenés par leurs parents clandestins sur le territoire américain et qui se sont intégrés, sauf que lui-même a déjà refusé toutes les propositions de compromis qu'on lui a faites. Mais il dit, pourquoi pas faire un deal mûr contre régularisation. Mais il ne fait que le dire pour l'instant.
Ce qui obligerait aussi les démocrates à avoir une vraie politique et de vrais projets liés à l'immigration, parce que est-ce que c'est pas ça qui manque aussi? Le projet démocrate lié à l'immigration, la loi immigration qui serait signée des démocrates, elle dit quoi? Est-ce que ça existe? Ou est-ce qu'on a bien mis ça sous le tapis finalement?
Non, pour l'instant, c'est vrai que l'immigration, justement, comme je disais tout à l'heure, ça renvoie aussi à la division qui est très forte chez les démocrates entre une aile gauche qui serait favorable à une politique de régularisation massive, à une politique plus ouverte, plus généreuse d'accueil et d'asile, et des démocrates plus centristes. Il y en a pas mal qui ont été élus dans le centre, dans le Midwest, lors de cette vague de novembre 2018, et qui, eux, disent « Oh là là, non, sur l'immigration, moi, je me sens plus proche de la ligne Trump ». Et donc, évidemment, Le problème, c'est que définir pour Pelosi une ligne commune sur l'immigration, ça n'a rien d'évident dans le Parti démocrate actuel.
On a vu que les démocrates étaient en train d'entrer dans la bataille ce week-end ou un peu avant. Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, a annoncé qu'elle était candidate. On sait que Joe Biden est presque sur le point de se lancer. Ça, c'est la vieille garde. Et c'est assez intéressant de voir que, pour Elizabeth Warren, c'est la semi-vieille garde. Mais enfin, quand même, c'est pas la jeune garde, on va dire. En âge, je vois Jean-Marc Four qui fait comme ça avec sa tête. Disons qu'elle n'est pas élue depuis si longtemps que ça, en fait, puisque elle a été élue au moment de Barack Obama, dans mes souvenirs. Donc, ça doit être la vague 2008 ou 2010. Et donc, Joe Biden, ça, c'est la vieille garde, en fait. 69 ans, ok, donc vieille garde. La jeune garde démocrate, elle est où? Elle dit quoi? Est-ce qu'elle n'attend qu'un moment pour éclore? Est-ce qu'on connaît déjà des noms?
De toute façon, il y a un nom en ce moment qui fait florette à Washington, c'est Beto O'Rourke, ce paradoxal vaincu, puisqu'il a été battu pour le poste de sénateur du Texas, mais dans des conditions tellement honorables et avec un tel charisme que beaucoup le voient aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, il était représentant du Texas depuis 2013 auparavant. Le voient aujourd'hui comme justement la solution à tous les problèmes, une sorte de nouvel Obama qui guérirait, j'allais dire presque, les démocrates de tous leurs maux. Il faut rester prudent.
Mais c'est un centriste, comme vous disiez, effectivement. Texas, on est forcément centriste, forcément.
Oui, O'Rourke est très radical dans les mots, dans la façon aussi de faire campagne. Il est très novateur dans la façon de faire campagne. Et comme Obama, d'ailleurs, un petit peu, il n'est pas si à gauche que ça, si on regarde bien ses positions. Mais par ailleurs, les autres jeunes éventuels candidats, le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore connus, parce qu'il faut passer par le filtre des primaires. Ce sont les primaires aux États-Unis qui construisent les candidats, qui construisent la figure nationale des candidats. Et tous ces jeunes éventuel candidat, à part O'Rourke parce qu'il s'est fait connaître là justement, ils ne sont pas encore connus à l'échelon national et donc ils n'ont pas encore de voix. On peut penser par exemple à l'ancien ministre d'Obama, Castro, Joaquin Castro, qui lui aussi vient de ce sud où la question migratoire se pose particulièrement, mais qui le connaît? C'était pas un grand élu, il a jamais été sénateur, gouverneur, donc tous ces jeunes, il manque encore de visibilité. Et par contre, ceux qui ont la visibilité, on se dit, comme Biden, comme Warren, on se dit, ouais, mais non, rediffusion.
69 ans pour Elizabeth Warren, plus de 70 ans.
76 ans pour Biden, 76 ans pour Biden. Il aurait 78 ans lorsqu'il deviendrait président. Et il faut pas l'oublier, il serait le premier président des États-Unis, s'il n'avait jamais été élu en 2020, à dépasser la barre symbolique des 80 ans au pouvoir. Donc oui, c'est compliqué.
Grégory Philips, je vous entends trépigner dans mon casque.
en tout cas, pour les candidats à venir, ce qu'il faut faire en ce moment, c'est sortir un livre. Kamala Harris, la Californienne, sort un livre demain. Bloomberg réédite ses mémoires. Ça va sortir cette semaine. Le revoilà. Donc et puis Biden a dit qu'en gros, il prendrait sa décision pendant les fêtes en famille. Donc il devrait l'annoncer dans les toutes prochaines heures ou tout prochains jours. Donc en tout cas, Corentin a raison. Ça se joue en ce moment et parmi les aspirants démocrates à la candidature pour la présidentielle de 2020, l'étape obligée, c'est de sortir un bouquin. Et là, il y a une profusion de livres politiques qui sort dans les prochains jours.
Voilà, c'est toujours un bon indicateur. Finalement, dans tous les pays, ça c'est bien une chose très universelle, sortir un livre avant une candidature. Juste un dernier mot, Corentin Célin, est-ce qu'il y a des manœuvres un peu similaires du côté des Républicains ou est-ce que pour l'instant, on ne va pas du tout, y compris mettre la main dans l'eau pour voir si c'est chaud ou pas, pour défier Trump le cas échéant?
Non, pour l'instant, ça paraît vraiment impossible. Pour une bonne et simple raison, faut jamais oublier qu'aucun président depuis la généralisation des primaires en 1968 n'a été battu en primaire. Déloger un président de son propre parti, c'est extrêmement compliqué. Et du côté républicain, on en reste. On l'a vu la semaine dernière avec Romney, nouveau sénateur de l'Utah.
C'est ça, qui a fait une tribune dans le New York Times. On s'est dit qu'il voulait remplacer McCain comme empêcheur de tourner en rond en chef de Trump.
Comme meilleur opposant interne, mais on en reste aux grandes paroles, au grand moulinet. Mais quand il s'agit de voter, on vote avec Trump et pour l'instant le parti républicain est devenu celui de Trump et il est fort improbable d'avoir un véritable rival aux primaires. Le seul qui a dit qui pourrait y aller, c'est Flake, l'ancien sénateur de l'Arizona, qui vient de quitter son poste. Mais on se souvient qu'il a lui-même a renoncé à se représenter pour défendre son poste. Alors, aura-t-il le courage pour aller défier Trump? Peu probable.
Allez, on n'y est pas encore. En tout cas, le shutdown, il continue. On suit ça avec grande attention. Merci beaucoup, Corentin Célin, de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, c'est en Grèce, dans un camp de réfugiés qui fonctionne, qui n'est pas surpeuplé, qui ne provoque pas de dépression chez les migrants qui y ont trouvé refuge. Ça n'est pas toujours le cas. Et Angélique Couronis va nous expliquer pourquoi, sous les radars et Amélie Perry. marié avec une miss en Algérie, une saoudienne qui ne veut pas rentrer chez elle notamment, et puis Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Eh bien ça ne saute pas aux yeux comme ça Jean-Marc, mais pour vous ce début d'année 2019 pourrait bien être l'année d'une Afrique démocratique.
Mais quelle semaine ! Résultat attendu à RDC, à Madagascar, putsch manqué au Gabon, manifestation au Soudan, etc. etc. Et si la démocratie avançait enfin en Afrique, on ne sait jamais.
Allez, à tout à l'heure, 18h55, le tour du monde n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni, voici Jonathan Jeremiah. Good day. I see the kids, them running on by. And that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing la 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 la. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the ninth street with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along.
Sometime on the hair and crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, haven't you heard? Yeah. This is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along.
Est-ce une bonne journée, nous dit Jonathan Jeremiah. Bon, il n'est pas tort, hein?
Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier, une élection pour démarrer. Amélie, l'élection d'une reine de beauté qui ne révèle pas le plus beau côté d'un pays.
L'élection de Miss Algérie. Elle a eu lieu vendredi et depuis, les plus racistes se déchaînent contre elle. Voilà, c'est l'élection de Khadija Benhamou. Elle a été sacrée, elle était Miss Adrar, une région du sud de l'Algérie. Khadija est une grande jeune femme aux cheveux noirs bouclés, la peau mate, trop africaine selon certains. C'est la première fois qu'une Miss originaire d'une région du sud du pays est élue, région où les habitants ont la peau plus foncée. Elle est l'objet depuis des pires insultes, des pires comparaisons. Mais la jeune femme a répondu, invitée à la télévision, que Dieu leur montre le chemin. Voilà la sagesse d'une très belle personne.
Absolument, hors de question pour cette autre jeune femme de rentrer chez elle en Arabie Saoudite cette
fois. Elle a fui sa famille après avoir subi des violences, dit-elle. Elle a pris un vol pour la Thaïlande, une escale vers l'Australie où elle veut demander l'asile. Mais à Bangkok, elle a été arrêtée et menacée d'expulsion vers son pays. Barricadée dans sa chambre d'hôtel, elle a demandé l'intervention du Haut Commissariat aux réfugiés. Voilà, elle dit, je ne quitterai pas ma chambre tant que je n'aurai pas vu le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Je veux l'asile. Cette vidéo a fait le tour du monde, le HCR l'a entendu. Et ce soir, Raaf Mohamad Al-Kunun, 18 ans seulement, a pu quitter l'aéroport de Bangkok avec des représentants de l'organisation onusienne. Le HCR va statuer sur son cas dans les jours à venir. La pression internationale et surtout le passif de l'affaire Khashoggi, le journaliste tué sauvagement dans le consulat saoudien, tout ça, ça a certainement joué en sa faveur. Le chef de la police de l'immigration thaïlandaise s'est engagé devant les caméras. Si elle ne veut pas partir, elle ne sera pas renvoyée contre son gré.
La fin annoncée des librairies, ça se passe en Belgique.
Et ce que la RTBF appelle librairie, ce sont là plutôt nos marchands de journaux. Avec ce chiffre inquiétant, 3 boutiques mettent la clé sous la porte chaque semaine selon un syndicat. Le pays a perdu plus de 1100 librairies en 10 ans. Et la RTBF nous rappelle ce reportage de 2012 où l'on s'inquiétait déjà pour le secteur avec des clients qui ne venaient plus pour la presse.
Qu'est-ce que vous venez acheter ?
À boire ou un petit encas ou quoi.
Des journaux, des magazines, non ?
Non.
C'est plus une petite épicerie finalement.
Ouais, voilà.
Non, mais simplement, la petite avait soif, donc moi, il me fallait des cigarettes, simplement. Quoi.
Voilà, aujourd'hui le secteur attribue sa chute à,
un, mal, hein,
ouais, un petit peu, ouais, à la numérisation donc croissante des médias, aux jeux de hasard que l'on achète aussi en ligne, au recul du nombre de fumeurs, hein, ils venaient acheter leurs cigarettes dans ces librairies, marchands de journaux avant. Le syndicat envisage aujourd'hui d'autres débouchés pour survivre, comme les points de retrait pour les commandes sur le web.
Et puis si vous êtes rentré de vacances sans encombre, c'est pas le cas de tout le monde.
Oui, pas le cas de ce Boeing 737 de la Norwegian Air Shuttle, coincé depuis 3 semaines en Iran. En fait, l'appareil reliait Dubaï à Oslo le 14 décembre dernier. 192 passagers à son bord. À cause d'une panne, le pilote a fait atterrir en urgence l'avion à Shiraz, dans le sud-ouest de l'Iran. Les passagers ont pu prendre un autre avion dès le lendemain, mais le Boeing, lui, n'a pas bougé, car les mécaniciens de la Norwegian attendent des pièces détachées, des pièces bloquées par les sanctions rétablies par l'américain Trump contre la République islamique. Sur les réseaux sociaux, l'Iran est devenu le nouveau triangle des Bermudes qui avale des avions. En tout cas, pour les passagers qui ont dû se poser et passer la nuit du 14 au 15 décembre dernier en Iran, ce ne sera pas sans conséquence non plus. Les États-Unis pourraient leur interdire l'entrée sur le territoire, comme à toute personne s'étant rendue en Iran ces dernières années.
Amélie Perrier, sous les radars tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci Amélie. Et vous
à
revenez demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Grèce que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avons été voir comment vivaient les réfugiés du camp de Moria dans des conditions de surpopulation épouvantables. Et bien ce soir, nous allons vous montrer tout autre chose. Parfois, ces camps-là, situés en Grèce, ça marche. Bonsoir Angélique Cournis.
Bonsoir.
Angélique, vous revenez donc d'un autre camp dans le nord du pays. Cette fois, un camp à visage humain, vraiment. Vous allez pouvoir nous aider à le constater, ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, Angélique.
Pas d'odeur qui prend à la gorge, pas d'ordure par terre, pas de visage tiré, ni de cris de colère, ni même de barbelés. C'est qu'il est des camps de réfugiés heureux, même en Grèce. Et celui de Diavata, à environ 10 km de Thessalonique, la seconde grande ville dans le nord du pays, en est un. Levki Gnati, directrice adjointe du camp, nous fait la visite.
Ici, c'est la maternelle.
Alors que nous marchons dans le camp, un jeune Afghan vient saluer Levki.
Bonjour, comment ça va ? Mes félicitations, bravo.
Pas peu fière, elle nous parle des dernières réussites des jeunes non accompagnés.
6 ados non accompagnés ont passé et réussi leurs examens de premier niveau de langue grecque. Tu veux partir ?
Non.
Tu veux aller ailleurs ?
Non.
Tu veux rester ici ? Ils veulent tous rester. Pas en France ? Pas en Allemagne ?
Au fond du camp, il y a même un atelier Pilates Yoga pour les femmes et un de théâtre pour les hommes.
Voici l'espace des femmes. Ici, elles font de la gym et du yoga. On va arranger l'espace d'à côté pour les hommes afin qu'ils puissent eux aussi se dépenser.
L'ennui des migrants, malgré tout, ces ateliers est palpable. Mais les conditions de vie sont dignes. Il n'en a pas toujours été ainsi. En avril dernier, le camp de Diavata était difficile d'accès pour les journalistes et un véritable enfer pour les réfugiés qui dormaient à même le sol, y compris les femmes enceintes et les malades. À l'époque, les arrivées des migrants se sont précipitées d'un seul coup. Le camp prévu pour 1000 personnes au grand maximum s'est retrouvé à en accueillir plus du double, un cauchemar que personne ici ne veut revivre.
Levki se souvient.
Vous ne pouvez pas imaginer le chaos que c'était. Ce qui avait été une salle de gym était devenu un enfer surpeuplé avec des gens partout les uns sur les autres. Si seulement on pouvait rester à l'état actuel, 850 personnes au grand maximum, 150 personnes de plus, ça devient complètement ingérable. Après, on aurait des réfugiés à deux vitesses. Ceux qui sont là depuis un moment commencent à se faire aux us et coutumes du pays, et ce n'était pas gagné d'avance. Il faut préserver ce lieu en l'état. Il faut que ce camp reste le dernier espace intermédiaire d'adaptation avant d'aller vivre normalement dans des appartements et s'intégrer à la société grecque.
Kostas Simitopoulos, responsable administratif du camp, est d'accord. Il est arrivé ici directement de l'enfer de l'île de Lesvos, où il a passé 2 ans à travailler dans le terrible camp de Moria. Pour lui, le plus gros danger désormais, c'est les arrivées terrestres via la Turquie, qui ne font qu'augmenter. Mais pour lui, c'est tout à fait logique.
Le long du fleuve Evros, il y a moins de contrôle. Les passeurs trouveront toujours les points de passage, car c'est un fleuve. Et de fait, pour ceux qui veulent aller plus loin en Europe, c'est plus facile. Les îles sont comme des prisons naturelles, tandis qu'après le Evros, tu peux poursuivre ton voyage. Si tu réussis à le traverser, tu arrives sur le continent où tu peux disparaître plus facilement. Par exemple, en t'introduisant dans un camion. Sur les îles, il y a des contrôles partout, dans les ports, sur les routes. Les îles sont des pièges, sans issue.
Même image au camp de Neakavala, à une cinquantaine de kilomètres du camp de Diavata. La police, à l'entrée du camp, nous accueille même débonnaire.
Ici, les conditions sont meilleures, les choses sont mieux organisées. Le camp est de type ouvert. Ils vont et viennent comme ils veulent. Sur les îles, la situation est plus difficile. Ce sont tout de même les portes principales d'entrée du pays. Chez nous, ici, on arrive à mieux gérer.
Justement, à même pas 50 mètres du camp, des migrants, des Kurdes d'Alep, qui attendent depuis des mois que leur dossier soit réglé, nous invitent à partager leur repas. Et à un bémol près, ils confirment.
Dans notre camp, ça se passe bien. Mais dans d'autres, il y a des bagarres. La nourriture n'est pas bonne. On mange tous les jours des spaghettis, des patates ou des macaronis. Alors on est venu ici faire griller du poulet.
Ici, dans le nord de la Grèce, les camps sont pour l'instant à visage humain et conviviaux. Pour qu'ils le restent, ils ne doivent pas dépasser les 1000 réfugiés par camp. La mairie d'Oxylocastro, dont dépend le camp de Neakavala, s'est alliée au ministère de la Défense qui gère ces camps pour éviter toute surpopulation. Lazaros Efthymiadis, conseiller du maire, est catégorique.
Il existe une directive du ministère de la Défense selon laquelle il y aura 1000 personnes et pas une de plus dans le hotspot de Neakavala.
Entre janvier et fin octobre de cette année, 11 003 personnes au total ont franchi la frontière terrestre gréco-turque, soit une augmentation de 140% par rapport à la même période en 2017, dont une majorité, 73%, de personnes vulnérables. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. Prévoyante, l'armée grecque construit des camps de toile un peu partout dans la région.
Angélique Coronis pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Angélique. À très vite, évidemment. Et puisqu'on sort des camps de réfugiés, tiens, il n'est pas tout à fait incongru d'aller en Italie. Paolo Conte, comédie sur France Inter.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli. come di don Juan. Ta-da-da-dum, ta-da-ta-dum, ta-da-ta-da-ta-da-da. Ta-da-ta-da-ta-ta-zum. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy d'un jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy d'un jour. Za taradam, tadam, tadadetatatam. Taratatatatam. La comedy d'un jour. La comedy de ta vie. La comedy, la comedy. La comedy, la comedy. La la, la la.
Et ben ça nous ramène loin en arrière, tiens, de réécouter Paolo Conte. Il y avait longtemps, c'est aussi que ça que ça sert, un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, suspense électoral en République démocratique du Congo, à Madagascar aussi. Coup d'État avorté au Gabon, manifestation d'opposition au Soudan. C'est une semaine sous tension qui démarre dans plusieurs pays africains. Et vous, ce soir, vous dites, et si pour une fois, la démocratie en sortait renforcée sur le continent? Alors on peut toujours rêver, mais en tout cas, c'est votre monde à l'envers.
Écoutez, on est encore dans la période des vœux, donc oui, on peut toujours essayer. Faisons un rêve, le rêve effectivement que la démocratie marque des points lors de cette semaine. Ou étrange coïncidence, tout se télescope en Afrique. D'abord, le symbole le plus fort, c'est la République démocratique du Congo. C'est un emblème, parce que l'ex-Zaïre est immense, hein, c'est le plus grand pays francophone du monde, 80 millions d'habitants, et parce que depuis plus de 50 ans, il n'a jamais connu de transition pacifique ou du pouvoir de Lumumba à la famille Kabila, en passant évidemment par Mobutu. Et si l'heure était enfin venue, depuis 8 jours, les Congolais attendent patiemment pour l'instant le résultat de la présidentielle qui serait imminent, et plusieurs indicateurs laissent penser que l'un des candidat de l'opposition a gagné largement. L'Église, seul contre-pouvoir vraiment organisé dans le pays, l'affirme presque ouvertement, et le report de la publication des résultats, prévu initialement la semaine dernière, le laisse également penser. Et si le clan Kabila se retirait en acceptant la défaite de son poulain Emmanuel Ramazani Shadary et la victoire dans les urnes de l'un des opposants, Martin Fayoulou ou Félix Tshisekedi? Le symbole serait considérable pour toute l'Afrique. On a envie d'y croire. Mais la censure imposée sur Internet, le renvoi de notre consoeur de Radio France Internationale, l'interminable délai de publication des résultats, tout ça laisse dubitatif, pour ne pas dire inquiet.
Un autre résultat électoral attendu, ce sera demain à Madagascar, là aussi gros suspense.
Et là aussi, pourquoi pas, faisons un rêve que les résultats ne déclenchent aucune violence. Ce serait le signe que la grande île de l'océan Indien, 25 millions d'habitants, dont 20 000 expatriés français, a atteint une nouvelle maturité politique. Parce que les perdants, par le passé, n'ont quasiment jamais accepté leur défaite à Madagascar. Cette fois, le deuxième tour, il y a trois semaines, a opposé deux anciens présidents, deux frères ennemis, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Les résultats provisoires publiés la semaine dernière placent le premier, Andry Rajoelina, assez nettement en tête. S'ils sont confirmés par la commission électorale, Marc Ravalomanana se grandirait à reconnaître sa défaite et il ferait lui aussi du bien dans ce cas-là à la démocratie. Là encore, on veut y croire, mais là encore, on a des doutes. Depuis une semaine, les partisans de Marc Ravalomanana ont déjà organisé 5 manifestations pour contester les résultats par avance et ils critiquent déjà le travail de la presse. C'est un peu comme partout, on tire sur le messager, la presse. Quand le message ne vous plaît pas, ce n'est pas de bon augure.
Et puis ça bouge évidemment aussi au Gabon. On en parle dans les journaux depuis ce matin, on y reviendra tout à l'heure avec Sébastien Paour. Au Gabon et au Soudan d'ailleurs.
Oui, alors au Gabon, sur le golfe de Guinée, à l'ouest, le coup d'État avorté de ce matin possède, c'est vrai quand même, tous les aspects d'un pathétique mini-putsch d'opérette. Mais il dit quand même quelque chose. Il dit l'usure d'un pouvoir, celui de la famille Bongo aux manettes depuis 50 ans, avec un homme, Ali Bongo, aux abonnés absents depuis plus de 2 mois. Au Soudan, à l'est du continent cette fois, il n'est quasiment plus un jour depuis 3 semaines sans une nouvelle manifestation contre le pouvoir dictatorial d'Omar El-Béchir. Lui, il est aux manettes depuis 30 ans, il est poursuivi par la justice internationale et son peuple n'a même plus de quoi se nourrir. Et si Ali Bongo et Omar El-Béchir jetaient l'éponge ? Là aussi, on peut toujours rêver. Et pour faire bonne mesure, le calendrier électoral africain annonce enfin 2 autres rendez-vous emblématiques là aussi. Le 16 février, dans cinq semaines, donc le Nigeria va voter, c'est le pays le plus peuplé du continent, 200 millions d'habitants. Question, pourra-t-il échapper aux violences électorales qui ont toujours marqué son histoire ? Une semaine plus tard, le 24 février, le Sénégal votera à son tour. C'est a priori l'une des rares démocraties d'Afrique qui a vécu déjà plusieurs alternances politiques pacifiques. Donc là encore, on y croit. Mais on s'inquiète vu l'interdiction judiciaire faite à de nombreux candidats de se présenter, notamment l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Partout donc sur le continent, c'est le même espoir de démocratie et partout c'est le même doute. On aimerait y croire, mais on a du mal à y croire.
Et on verra ça ensemble d'ailleurs dans Un jour dans le monde. On ne manquera pas d'y revenir, Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc, on se retrouve évidemment demain dans un instant. C'est le journal de Sébastien Paour et puis le 18-20 la suite, c'est le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous et ne bougez pas.